Voici ce que dit l'apôtre Paul, c'est pourquoi. Alors je vais le lire dans la version Semeur, mais vous allez, on n'est pas très loin. Hein. C'est pourquoi vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs, et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis, à cause d'un rite accompli sur leur corps et par des hommes, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et a abattu le mur qui les séparait en livrant son corps à la mort. Il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Amen. On pourrait lire plus loin jusqu'au verset 22, mais je m'arrête là. Regardez, considérez la croix comme le plus grand appel à la réunification de tous les temps, où les deux grands bras ouverts de Christ appellent à la réconciliation entre tous les humains. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il est là le message de la croix. Un jour, un docteur de la loi a voulu éprouver le Seigneur. On le lit ensemble, Matthieu 22. Matthieu 22, verset 34. Alors, toujours dans la version Semeur. En apprenant que Jésus avait réduit au silence, les Sadducéens, Matthieu 22, 34, les pharisiens se réunirent. L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Amen. » Le premier, le grand commandement, évoque la dimension verticale de la croix. Et c'est pas parce que je parle de solidarité aujourd'hui que je veux minimiser la relation individuelle et personnelle que nous avons les uns et les autres avec le Seigneur. Elle est fondamentale. Le premier grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée, rappelle, évoque la dimension verticale de la croix, notre relation, celle que j'ai appelée tout à l'heure, la partie la plus individualiste de notre salut. Mais l'autre grand commandement, il est symbolisé par la dimension horizontale de la croix, celle de notre relation, les uns avec les autres. Et la Bible est claire. Ces deux commandements forment un tout et sont, je suis désolé, mauvaise nouvelle, ils sont indissociables. Certains vont focaliser sur la dimension verticale. Ils mettent en avant leur relation avec Dieu comme suffisante. Moi, j'ai le Seigneur, quitte parfois à même s'isoler de la communauté chrétienne. Parfois, d'autres vont focaliser sur la dimension horizontale et vont être dans une forme un petit peu d'activisme social, où ils vont être à l'affût et affairés à bénir les uns et les autres autour d'eux. Nous devons être, les uns et les autres, au centre, pile à l'endroit où se croisent ces deux poutres, à l'intersection. On ne peut pas dire que j'aime le Seigneur, je l'aime de tout mon cœur, de toute ma force, et être négligent sur la dimension horizontale. C'est Jean qui le dit encore plus fortement que moi ce matin. Il dit ceci, si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. 1 Jean 4, 20. Ailleurs, il dit, celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. 1 Jean 5, verset 1 et verset 2. Je le dis ce matin avec beaucoup de force, avec beaucoup de respect aussi. Avec de l'amour, j'espère que vous ressentez aussi de l'amour, mais de tout mon cœur. Même si cela doit peut-être vous choquer, mais la solidarité réciproque entre les membres de l'Église n'est pas une option facultative. Elle est aussi importante que le salut individuel. La solidarité au centre de la croix. Et je voudrais terminer par ce troisième point. La solidarité au centre de l'Église. Être membre du corps, que vous le vouliez ou non, du corps de Christ, hein, je vous ai rappelé tout à l'heure, c'était l'appellation de l'Église, c'est avoir des relations les uns avec les autres membres. Nous sommes tous les membres les uns des autres. Vous n'êtes pas obligé de dire Amen ou Alléluia, ne vous inquiétez pas, hein. Je suis convaincu. L'apôtre Paul aux Romains dit ceci, « Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ et nous sommes tous et chacun pour sa part, membres les uns des autres. » Romains 12, verset 4 et verset 5. L'Église est un corps, le corps de Christ. Or, dans le corps, tous les organes sont utiles, mais aucun d'eux ne peut faire tout seul. Pas essayer, mais voilà, moi j'ai... L'apôtre Paul dit, l'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, j'ai pas besoin de vous. Et ouais. Ça marche pas très bien, une tête sans pied. 1 Corinthiens 12, verset 21. Je le dis avec beaucoup de conviction ce matin, mes frères et sœurs. La bonne santé du corps, elle dépend des échanges entre les différents organes. Vous savez, les conséquences parfois désastreuses dans notre corps physique, lorsque nous avons un problème circulatoire, il peut arriver même qu'un membre se gangrène par faute de circulation du sang, et allant parfois même jusqu'à devoir amputer ce membre. La question des relations entre les organes est fondamentale pour la vitalité de notre corps. Eh bien, les mêmes lois s'appliquent au corps de Christ. La vie, elle se manifeste, la vie, elle se développe par des échanges et des relations réciproques de bonne qualité. Chaque membre du corps est relié à la tête. La tête, c'est l'origine de nos commandements, de tout ce qui va. Et dans l'Église, c'est la même chose. Chaque membre, c'est certainement la partie la plus individuelle que j'ai voulu marquer tout à l'heure en parlant de la croix du calvaire. Chaque membre est connecté à la tête. C'est fondamental. C'est fondamental. Il faut que dans la vie, chacun ait une vie personnelle, profonde, avec le Seigneur. Sans tête, notre corps ne serait pas grand-chose. Et ne pas mettre Christ à sa place, c'est-à-dire à la tête du corps de Christ, je le dis un peu bizarrement, mais c'est pratiquement décapiter l'Église. C'est lui la tête de l'Église. Et je le dis vraiment, nous devons avoir personnellement, individuellement, cette relation avec la tête, une relation personnelle qui est Jésus-Christ, que nous ayons cette relation de qualité et aussi cela jaillira sur la relation les uns avec les autres. Les échanges sont nécessaires entre tous les membres de l'Église pour coordonner les services. Je pense en particulier à tous ceux qui exercent, je dirais un ministère, mais c'est mal compris parfois le ministère, parce que le ministère, c'est le mot « service ». Donc quand je sers dans l'Église, que je balaye, je monte sur le... Quoi que je fasse, j'exerce un ministère. C'est un service. Peut-être particulièrement pour ceux qui, donc, exercent un ministère, il est important d'avoir des relations, les informations, les réactions, les projets qui circulent des uns et des autres. Cette semaine, on a eu deux conseils, un conseil d'anciens, on a eu un conseil d'administration. La nécessité d'interaction les uns avec les autres, c'est fondamental. Parce que sinon, si on ne fait pas cela, chacun travaille dans son petit cercle de responsabilité sans se soucier des autres. Et c'est une aberration dans l'Église. Il faut de la concertation, il faut de l'harmonisation dans nos actions. Lorsque chaque membre affirme n'être dépendant que de Christ et n'avoir de conseils à recevoir de personne, ni de compte à rendre, l'Église ne peut pas prospérer. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de place pour l'individualisme dans le corps de Christ. Il peut y avoir à ce moment-là des doubles emplois, des erreurs d'agenda, des dépenses inutiles d'énergie, d'argent, etc., par seulement manque de coordination. Beaucoup d'activités peuvent se faire parfois dans l'Église comme dans le monde, selon le principe de la concurrence, au lieu de se faire comme les fonctions même d'un corps. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas en train de régler des comptes où j'ai pas de tension particulière. Je vous prêche en me prêchant d'abord à moi-même et parce que je pense que c'est des encouragements nécessaires. Si nous n'en avons pas besoin dans notre Église, c'est très bien, mais ça nous sert à comprendre que l'unité du corps de Christ, ce n'est pas juste quelques minutes de la semaine où nous nous voyons, l'amour que nous manifestons les uns les autres, qui est parfois plus facile quand on est dans un cadre un peu endimanché, c'est tous les jours de notre vie. Alors chacun, on a un emploi du temps, je ne dis pas, voilà. Mais la réalité du principe du corps de Christ, c'est la réalité de notre quotidien. J'appartiens à une famille locale. On parle souvent de l'Église, vous savez, de l'Église avec un grand E universel. D'ailleurs, dans celle-là, c'est plus facile d'aimer les frères et sœurs. On ne les connaît pas, on ne les côtoie pas, ils ne nous embêtent pas. Mais pour moi, si on défend appartenir à la grande Église qu'on appelle avec un grand E, la cohérence, c'est ce que je vis à l'intérieur de l'Église locale, avec mes frères et sœurs. C'est l'encouragement, en tout cas, de la parole de Dieu. Un corps est une unité, organisée. Le cerveau coordonne les mouvements. Mais chacun de nous, nous avons personnellement cette responsabilité de favoriser la solidarité réciproque entre tous les membres de l'Église, selon d'ailleurs cette exhortation de la parole de Dieu, je vous la lis. C'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans sa dépendance, la dépendance à Christ qui est la tête, que l'ensemble, bien lié, bien coordonné, grâce aux différents muscles et ligaments, forme une structure harmonieuse. À condition que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. De cette manière, en assurant l'activité attribuée à chaque partie, tous les membres contribuent ensemble dans un esprit d'amour à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. Amen. Je vous ai lu Éphésiens 4, verset 16, dans la transcription Parole vivante. Je vous lis un autre texte de l'apôtre Paul, toujours dans la transcription Parole vivante. Dieu a fait de notre corps un ensemble harmonieux. Eh oui, c'est quand ça va pas qu'on se rend compte que ça marche bien. Non ? Dieu a fait de notre corps un ensemble harmonieux dans lequel il a disposé les différentes parties de manière à donner une fonction essentielle aux organes les plus humbles, afin qu'on honore davantage ce qui manque naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et donner aux différents membres le sens de leur solidarité réciproque, que chacun d'eux ait le souci des autres et leur témoigne une égale sollicitude. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 24. Nous avons vu que la solidarité était au centre du projet divin, au centre de la croix, au centre de l'Église. Et je relis, tiens, je le relis, je n'avais pas prévu, je relis l'extrait de ce document que nous a envoyé Patrick Boudéen, des relations profondes où un amour saint est exprimé, donne à une Église beaucoup plus d'attirance que tous les efforts de marketing que ce monde peut produire. Si j'avais un programme à donner à l'Église, alors ne vous inquiétez pas, on ne me le demandera pas. Mais ça serait ce verset. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le Seigneur a dit, et c'était dans le dernier repas avec les apôtres, il a dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ne voulons-nous pas, mes frères et sœurs, avoir une Église attirante par la qualité d'amour des relations, qualité de la solidarité que nous vivons ensemble. Vous me direz, vous inquiétez pas pour l'amour. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Plus vous aurez cette dimension verticale avec le Seigneur, plus vous aurez une relation profonde avec lui, plus vous aurez de l'amour des uns pour les autres. Je me souviens une fois d'un témoignage d'un couple qui avait quelques petites difficultés. Et j'avais compris assez vite que l'un des deux avait une forme un petit peu de jalousie dans l'amour que pouvait manifester le conjoint à l'égard du Seigneur. Alors des fois, ça peut être déséquilibré. Parce que, vous savez, vous avez rencontré le Seigneur Jésus, ça bouleverse des choses et des vies. Et parfois, voilà, il peut y avoir négligence par rapport au conjoint. Je ne parle pas de cette situation. Mais là, j'avais senti que dans le conjoint, il y avait une certaine petite rivalité. Tous les deux étaient attachés au Seigneur, convertis. J'ai pu dire à l'autre conjoint, avec beaucoup d'amour, enfin avec les mots qui étaient là, laisse ton conjoint aimer le Seigneur de tout son cœur. Pas facile de laisser l'autre donner à Dieu la première place dans sa vie. Plus il l'aimera, plus il t'aimera, plus il aimera son prochain et les uns et les autres. Ça, c'est le secret de la vie avec Dieu. Plus il y a d'intensité dans ma relation profonde avec le Seigneur, même sans m'en rendre compte, je me lève, je sors, je vis avec les autres, ma famille, la société. Et en fait, cet amour de Dieu manifesté pleinement à la croix du calvaire, je le vis moi aussi. La croix est vraiment cette réconciliation des uns avec les autres. Je sais qu'il ne faut pas faire de politique, mais quand je vois qu'en Russie, les défenseurs de la Bible, de la parole de Dieu, exhortent des gens à aller tuer pour satisfaire Dieu, je me dis, on est loin de tout. La croix du calvaire n'a qu'un seul et un seul message, la réconciliation de chaque homme avec le Seigneur, mais des uns avec les autres. On a chanté plusieurs fois la paix ce matin. En conclusion, je voudrais juste vous laisser une fable chinoise. L'enfer et le paradis. Un jour, on demanda à un sage de donner sa vision du paradis et de l'enfer. Alors, il a dit ceci. En enfer, je vois des hommes qui sont attablés devant de grands plats pleins de riz. Mais ils sont rachitiques. Ils sont maigres. Ils meurent de faim, parce qu'ils ont dans leurs mains des étranges baguettes. Elles font plus de 2 mètres de longueur. Ils n'y arrivent pas à se nourrir. Dans le paradis, je vois un peu la même scène, des hommes assis devant de grands plats pleins de riz. Malheureux, ils sont heureux. Ils sont bien portants. Mais ils ont quand même ces étranges baguettes. Je vous dirai la fin la prochaine fois. Ils se servent de ces baguettes pour nourrir l'autre. Quelle image pour nous. J'ai besoin des autres et les autres ont besoin de moi. Alléluia. Elle est belle cette fable. J'avais beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je vous encourage juste à regarder le témoignage de l'Église primitive lorsqu'il est dit qu'ils étaient ensemble, d'un même cœur, d'une même âme. Parce que cette Église, l'Église primitive, c'était vraiment là où le Saint-Esprit... Moi, je dis que c'est la plus belle des Églises, puisqu'elle était vraiment au début du réveil et de l'action puissante du Saint-Esprit. Regardez ce qui s'est manifesté. Ils étaient ensemble. D'ailleurs, un des quatre piliers de l'Église primitive, c'était qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et vous ferez aussi, je vous l'encourage, je l'avais noté ce matin, à noter tous les versets où il y a marqué les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres, accueillez-vous, veillez, priez les uns pour les autres. Les exhortations à vivre ces relations les uns avec les autres sont importantes dans la parole de Dieu. Et pourquoi aussi elles sont notées? Parce que ce n'est pas aussi naturel et évident, parce que l'ennemi de nos âmes, je le crois de tout mon cœur, c'est que là, il peut gagner lorsqu'il empêche cette unification, cette reconstruction, comme je disais tout à l'heure, du corps de Christ au milieu de nous par la qualité de nos échanges. Amen.